Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la sainte sourate Al-Baqarah. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر اللَّهِ قَرِيبٌ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé, comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche, vraiment ?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en ce dimanche 28 mai 2023. Nous allons vous présenter le journal suivi d'un commentaire politique. Visite du sultan d'Oman à Téhéran, signe des relations croissantes entre l'Iran et les pays du Golfe Persique. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci d'être avec nous. Au sommaire de ce journal, deux gardes frontières iraniens tués lors des affrontements avec les talibans. La visite du sultan d'Oman ce dimanche à Téhéran. Et puis le président Raïsi appelle les membres de l'OPEP à l'unité. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Au moins 3 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées dans des affrontements opposant les troupes iraniennes et les forces talibanes le long de la frontière entre l'Iran et l'Afghanistan. 2 gardes frontières iraniens ont été tués et 2 civils blessés après que les forces talibanes ont ouvert le feu sur un poste de contrôle le long de la frontière avec l'Afghanistan, a fait savoir samedi 27 mai le chef adjoint de la police iranienne. Les responsables talibans ont également déclaré qu'un de leurs soldats avait été tué et un autre blessé. Ils disent que la situation est maintenant sous contrôle. Le chef adjoint de police iranienne a souligné que les braves gardes frontières iraniens ont réagi de manière décisive à la fusillade. Suite à la fusillade, a indiqué le général Rezaï, la partie iranienne a donné les avertissements nécessaires aux assaillants talibans conformément au protocole frontalier. Mais malheureusement, les tirs ont repris il y a des heures et les affrontements se poursuivent. Le chef de la police iranienne a ordonné aux gardes frontières de défendre courageusement et résolument le pays contre quiconque tenterait franchir ou de s'approcher des frontières. Le chef de la police a également averti que les autorités afghanes sont responsables de toute action imprudente et contraire au droit international. Pendant ce temps, le vice-gouverneur du Sistan et Baloutchistan pour les affaires de sécurité a déclaré à l'agence de presse Fars que la situation à la frontière Iran-Afghanistan est actuellement calme et sous contrôle. Des pourparlers ont eu lieu entre les responsables locaux de l'Iran et de l'Afghanistan et les deux parties ont convenu de poursuivre les pourparlers pour clarifier la cause du conflit, a-t-il ajouté. Au cours de ces derniers mois, les tensions ont augmenté entre l'Iran et l'Afghanistan en raison du non-respect du gouvernement taliban d'un traité de partage de l'eau de 1973 et de la restriction du débit d'eau de la rivière Hirmand vers les régions arides de l'est de l'Iran. Téhéran accueille ce dimanche le sultan d'Oman, Haitham Ben Tariq Al Saïd, un an après la visite du président de la République islamique d'Iran, Ebrahim Raïsi, à Mascate. lors du jour des pourparlers étendus des relations bilatérales au cas de médiation. Le sultan d'Oman, Haïssam Ben Tariq Al-Saïd, se rend ce dimanche à Téhéran à l'invitation officielle du président iranien Ebrahim Raïsi. Le président Raïsi s'est rendu à Oman le 23 mai 2022 à la tête d'une délégation politique et économique de haut rang et l'accueil que lui a réservé le sultan d'Oman à son arrivée à Mascate a montré que la politique du voisinage du 13e gouvernement a été bien accueillie par les autorités omanaises. Des pourparlers bilatéraux entre les responsables des deux pays, notamment les ministres des Affaires étrangères et des visites bilatérales, ont également indiqué la poursuite de cet accueil. Et la visite du sultan d'Oman à Téhéran ce dimanche souligne à nouveau les relations profondes Téhéran-Mascate. Lors du jour des consultations du sultan d'Oman avec les autorités iraniennes peut être divisée en deux catégories. La première catégorie est liée au rôle de médiation d'Oman dans les relations de l'Iran avec d'autres pays. Et la deuxième catégorie est celle des relations bilatérales et des questions connexes. Les relations bilatérales irano-omanaises sont le principal hors du jour de la visite officielle du sultan d'Oman. Et les principaux axes de ces relations bilatérales sont basés sur l'économie et le développement des interactions commerciales. Les statistiques indiquent une croissance significative du volume des échanges entre les deux pays et même au plus haut niveau de l'histoire des relations commerciales entre l'Iran et Oman. Le chef de la Chambre du commerce conjointe Iran-Oman a précisé, l'année dernière, le volume des échanges entre les deux pays est passé de 221 millions de dollars en 2013 à 1,8 milliard de dollars en 2022. Et le volume des exportations de l'Iran vers Oman est passé de 146 millions de dollars en 2013 à 1 milliard 100 millions de dollars en 2022. Et le volume des importations iraniennes en provenance d'Oman est passé de 75 millions de dollars en 2013 à 800 millions de dollars en 2022. Le président iranien a mis en garde l'Organisation des pays exportateurs de pétrole contre les tentatives de certains gouvernements occidentaux de semer la discorde entre ses États membres. Ebrahim Raïsi a fait ses remarques lors d'une rencontre avec le secrétaire général de l'OPEP, Haïssam Al-Gaïs, à Téhéran. Raïsi a déclaré que les États membres de l'OPEP devraient s'efforcer de promouvoir l'unité au sein de l'organisation pour déjouer de tels complots. Il a ajouté que l'Iran était prêt à renforcer sa coopération avec l'organisation, exprimant l'espoir que l'OPEP sera en mesure de contrôler la volatilité du marché pétrolier dans les mois à venir. Pendant ce temps, Al-Gaïs a salué l'Iran pour sa coopération constructive avec l'organisation, affirmant que Téhéran a toujours travaillé pour favoriser l'unité entre les autres membres de l'OPEP. Il a noté que l'unité au sein de l'organisation ramènera le calme sur le marché, en allusion à la coopération constructive constante de l'Iran avec l'OPEP. Le président iranien a assuré que la République islamique est déterminée à améliorer l'interaction avec cette instance. Selon son dernier classement militaire de 2023, Global Firepower classe l'Iran parmi les 10 premières puissances militaires du monde. Un site web spécialisé dans le militaire a fait paraître un classement de 145 pays parmi lesquels figurait Israël en fonction de leur puissance militaire. Repris par Yahoo News, le rapport de Global Firepower indique que les forces armées de la République islamique d'Iran font partie des 10 premières puissances militaires du monde. L'évaluation s'est basée sur plusieurs facteurs relatifs à l'armée de chaque pays, le volume des équipements, le nombre des forces militaires, la situation financière, les circonstances géographiques et les ressources disponibles dans le pays. L'Iran se distingue pour la puissance de sa flotte de chars de combat, sa flotte de véhicules automoteurs à lance-roquettes multiples et sa main-d'œuvre militaire active. Le rapport de Global Firepower stipule qu'en janvier 2023, l'Iran disposait de plus de 4000 chars et de plus de 1000 projecteurs de missiles et de roquettes. Son personnel militaire actif de 575 000 hommes est le septième au monde. Les États-Unis, la Chine et la Russie occupent le rang le plus élevé dans ce classement. L'armée indienne est également classée quatrième. L'armée saoudienne, pour sa part, occupe le 22e rang dans le classement. L'armée israélienne, quant à elle, occupe la 18e place. L'Iran poursuit son travail sur les missiles à combustible liquide et à combustible solide. Il continue également à travailler sur des fusées susceptibles de lancer des satellites, avec un accent particulier sur les missiles croisières et les munitions téléguidées de haute précision. Le pays possède donc de nombreuses options d'armes pour passer à l'action et à se défendre. Fin de ce journal, merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique reste avec nous. Merci. Visite du sultan d'Oman à Téhéran, signe des relations croissantes entre l'Iran et les pays du Golfe Persique. Selon le président du Conseil stratégique des relations étrangères de la République islamique d'Iran, la présence des États-Unis et du régime d'apartheid d'Israël dans la région du Golfe Persique est source d'insécurité et n'apporte qu'un avenir dangereux pour la région. Je recommande que les dirigeants des pays de la région se réunissent pour travailler à l'établissement d'une région plus forte, a affirmé Kamal Khatrazi samedi soir lors de la séance d'ouverture du deuxième cycle du dialogue irano-arabe organisé à l'initiative du Conseil stratégique iranien des relations extérieures et le centre d'études qatari Al Jazeera à Doha. En allusion à son discours de l'année dernière, dans lequel il a déclaré que l'Iran et l'Arabie saoudite ne peuvent pas s'exclure, il a indiqué « C'est un développement positif que l'Iran et l'Arabie saoudite aient décidé de normaliser leurs relations ». Il a mentionné également la reprise des relations de l'Iran avec les Émirats arabes unis et le Koweït, ainsi que le renforcement de ses liens avec le Qatar, le sultanat d'Oman et l'Irak. La visite du sultan d'Oman à Téhéran est un autre signe de la promotion des relations entre l'Iran et les pays du Golfe Persique. Khatrazi a fait allusion aux évolutions internationales actuelles vers un équilibre multipolaire, ajoutant que les dirigeants de la région ont fait preuve de sagesse en adoptant une politique indépendante. Ces évolutions montrent la maturité des pays de la région à exploiter les évolutions internationales pour leurs avantages et le bénéfice de la région dans son ensemble, a-t-il expliqué. Soulignant que le monde se dirige vers un nouvel ordre, il a ajouté « Bien qu'il soit encore impossible de définir les caractéristiques de ce nouvel ordre, les organisations régionales joueront sans aucun doute un rôle crucial dans les années à venir. Leur pouvoir, leur capacité, leur unité et leur degré d'indépendance détermineront leur importance en tant qu'acteurs cruciaux de l'avenir. Il est impératif de former une région forte, composée d'acteurs compétents et influents, a-t-il souligné. le président du Conseil stratégique des relations extérieures a décrit un dialogue honnête et ouvert, une coopération dans les domaines économiques, scientifiques et culturels, faisant preuve de modération et de tolérance et formant un mécanisme de sécurité collectif pour la région, sans ingérence étrangère, comme une nécessité pour la réalisation des intérêts collectifs. La sécurité et le développement sont des concepts indissociables, a-t-il insisté. Il a ensuite énuméré quatre questions importantes relatives à la région. La sécurité du Golfe Persique, les évolutions au Yémen, la reprise des relations entre la Syrie et le monde arabe et la Palestine. Concernant le point de vue de l'Iran sur la sécurité au Golfe Persique, M. Kharrozi a déclaré « La République islamique d'Iran considère la sécurité du Golfe Persique et de chacun de ses pays comme la sienne. Et notre opposition aux forces étrangères, principalement les États-Unis et Israël, est motivée par leur rôle dans l'instabilité. » La présence des États-Unis et du régime d'apartheid d'Israël dans la région du Golfe Persique est source d'insécurité et n'apporte qu'un avenir dangereux, a-t-il encore souligné. Kharrozi s'est félicité des progrès récents au Yémen et des relations renouvelées entre la Syrie et d'autres pays arabes. Il a souligné l'importance de la cause palestinienne, qu'il a qualifiée de cœur et d'âme du monde musulman. Il a évoqué les massacres brutaux perpétrés par l'armée israélienne à Gaza avant de saluer la fermeté des forces de la résistance. La résistance est le seul moyen pour lutter contre les crimes commis par le régime d'apartheid israélien et défendre les droits des Palestiniens, a-t-il dit. La résolution ultime de la question palestinienne est la formation d'un système politique unique via un référendum qui inclurait tous les habitants de la Palestine et les réfugiés palestiniens, qu'ils soient musulmans, chrétiens ou juifs, a-t-il conclu.
Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition de débat de Presse TV français. Nous sommes le samedi 27 mai en direct depuis la capitale iranienne Téhéran, également depuis le studio de Presse TV français. Dans cette édition de débat, nous allons évoquer la défense iranienne, un symbole de résistance et de fierté pour les Iraniens. En effet, il y a près de 3 jours, en même temps que l'anniversaire de la libération de la ville de Khorramshahr, après des années de résistance durant les 8 ans de défense sacrée, on a eu le dévoilement d'un nouveau missile balistique de nouvelle génération appelé Khorramshahr ou Khaybar. Alors, ce dévoilement intervient en pleine campagne de sanctions et de pression maximale des États occidentaux, à leur tête les États-Unis. Alors, comment pourrait-on interpréter ce développement dans l'industrie militaire, mais aussi surtout de la défense aérienne, mais aussi la défense de la marine iranienne dans tous les domaines, en fait, et aussi terrestre. Nous allons répondre à toutes ces questions avec nos deux invités. Je vous présente nos deux invités. Il s'agit de Maître Arnaud Develet, juriste international, également Luc Michel, géopoliticien. Je vous dis bonjour, messieurs, et merci de nous avoir accordé votre temps pour cette émission. Alors, Maître, on va commencer avec vous, si vous voulez bien. Alors, j'ai vu que vous avez un petit peu réagi concernant le fait que alors l'Iran a constamment souligné qu'il avait le droit de développer ses actions de défense malgré les sanctions et que vu des sanctions internationales prenant pour cible son industrie industrielle, son industrie militaire dont il a besoin pour se défendre notamment. Donc quel est votre point de vue à ce sujet, Maître ?
Ben écoutez, je dirais que après les déclarations de Madame Catherine Colonna sur l'opportunité de traduire en justice le président de la République arabe syrienne, Bachar el-Assad, suite à son retour triomphal dans la Ligue arabe, enfin, le retour de son pays dans la Ligue arabe, comme il se doit après 12 ans d'isolation. Ces déclarations d'Anne-Marie Legendre reflètent une fois plus que la diplomatie française, entre guillemets, est complètement déconnectée, non seulement des aspects purement juridiques, de l'accord sur le nucléaire, mais également dans sa façon, si je puis dire, d'intervenir de manière volontaire et hors tout cadre diplomatique dans des affaires internes à l'Iran qui, comme vous l'avez souligné en ouverture, portent avant tout sur la capacité pour la République islamique d'Iran de pouvoir développer des moyens d'assurer sa souveraineté. Et dans ce contexte précis, effectivement, l'inauguration, la présentation de ce dernier modèle balistique va au cœur d'ailleurs de ce qui avait été plus ou moins présenté par l'administration Trump à l'époque lorsqu'il s'agissait, selon Trump lui-même, de ramener l'Iran dans une forme de nouvel accord, d'élargir le contour de l'accord sur le nucléaire en y intégrant, je cite à l'époque, une discussion sur les moyens balistiques de la République islamique d'Iran et la soi-disant influence néfaste que la République islamique d'Iran aurait dans la région du Moyen-Orient. De toute évidence, et ainsi que les dirigeants de la République islamique d'Iran l'ont à maintes fois répété, ces deux thèmes n'ont strictement rien à voir l'un avec l'autre, mais on s'aperçoit de plus en plus que visiblement les prouesses de l'industrie aéronautique et balistique de la République islamique d'Iran inquiètent au plus haut point dans les chancelleries occidentales. Ces déclarations d'Anne-Marie Legendre ne sont qu'un reflet de cette réaction cutanée du Quai d'Orsay.
Exactement. Merci Maître pour vos explications. Restez en ligne. Luc Michel, je m'adresse à vous. Est-ce que vous êtes avec nous?
Oui, je vous écoute.
Merci. Vous avez entendu l'analyse de Maître Develay. Vous, dans un premier temps, comment interprétez-vous ce développement de l'industrie militaire et également de défense iranienne en pleine campagne de sanctions et de pression américaine, une campagne qui ne cesse de s'accentuer, évidemment, contre l'Iran, mais l'Iran qui a bien sûr le droit de développer cette industrie et de s'assurer de sa défense et de son industrie militaire.
Tout d'abord, bonjour à vous et à votre équipe et à Maître Develay. La première réaction, elle concerne la France. La France du régime Macron, c'est devenu simplement un chien courant de l'impérialisme américain. La France du général de Gaulle, ou même encore de Jacques Chirac ou de Ludovic de Villepin, est bien oubliée. Et elle était sous l'axe Paris-Moscou que nous avions lancé au début des années 1990, sont aujourd'hui obsolètes. L'Irak, évidemment, a le droit de se défendre. Il y a eu depuis la destruction de la chamière de Kadhafi. C'est un dossier que je connais bien puisque j'ai vécu personnellement cette destruction. Eh bien, aujourd'hui, par exemple, la Corée du Nord, qui est un autre État, sous sanction et sous menace occidentale, elle fait référence à sa constitution à la destruction de la chamière libyenne et à la nécessité de ne pas désarmer et de se défendre contre l'impérialisme. C'est dans cette perspective que se place la défense de l'Iran. La deuxième chose, c'est que les embargos et les blocus ont été inopérants, puisque l'Irak a trouvé en elle-même les forces de devenir une grande puissance militaire, et qu'ayant émergé comme une grande puissance régionale alliée à Pékin ou à Moscou, elle est aujourd'hui capable de répliquer mondialement.
Exactement. Et en ce qui concerne également la politique, Maître Develay a en effet évoqué ce sujet, ces déclarations des autorités françaises vis-à-vis de la Syrie, mais non seulement de la Syrie. En fait, ça montre cette insolence et cette ingérence des pays occidentaux, dont la France, dans les affaires des pays du Moyen-Orient, dont la Syrie, l'Iran, etc.
Les Français n'ont pas compris que le monde de la sphère politique depuis un an et demi a profondément changé. Les réseaux qui attaquent Bachar el-Assad, ce sont les mêmes réseaux qui attaquent Poutine ou la Chine, ou l'Iran encore aujourd'hui. Évidemment, c'est devenu inacceptable un an et demi après le début d'opération spéciale en Ukraine. Il y a les réseaux de Georges Soros, il y a les réseaux atlantistes européens. Tous ces gens n'ont pas compris qu'ils sont du mauvais côté de l'histoire. C'est cela qu'il faut revenir, évidemment. Et le retour de la Syrie sur la scène arabe et mondiale est évidemment un défi inacceptable pour les Français. Il y a une autre affaire qui révèle, je dirais, la dangerosité, la malignité des Français. C'est l'affaire Riyad Salahdeh, les poursuites lancées par Paris dans une affaire de bien mal acquis contre le directeur de la Banque du Liban. Ce sont les réseaux de Georges Soros, les réseaux du Quai d'Orsay, l'avocat français William Bourdon, de Sherpa et de Transparency International, qui est le principal associé de Soros, qui sont aujourd'hui à la manœuvre au Liban, comme ils sont à la manœuvre en Guinée équatoriale. Cela démontre que le combat est mondial et évidemment que la réponse à l'impérialisme devra être mondiale.
Mmh. Merci pour vos explications. Alors, maître, en ce qui concerne le développement du système du missile balistique iranien, la défense iranienne, est-ce qu'à votre avis, si ça continue comme ça, il y aurait risque de réaction de la part des Occidentaux, entre autres, ou soit des réactions diplomatiques en plus de sanctions, de pressions, des réactions peut-être militaires?
Mais écoutez, je pense que, en ce qui concerne une action militaire, les Occidentaux savent très bien que toute tentative d'aventurisme militaire dans la région, surtout après les tentatives de scinder la région en deux, en mettant en avant ces soi-disant accords Abraham, l'Arabie Saoudite s'est extraite de ce piège et a fait ce qu'il fallait en tendant la main à la République islamique d'Iran et en rétablissant les relations diplomatiques entre ces deux pays incontournables de la région. Et partant de là, je pense que, si je puis dire, la fenêtre, pour peu qu'on puisse parler d'une fenêtre de tir, est pour l'instant fermée. Ce qui n'empêche pas que la guerre hybride, telle qu'on a pu la découvrir depuis maintenant quelques années, sous-entend bien sûr des déclarations inopinée de la part des chancelleries et quelque part un discours d'impuissance, parce qu'on a pu voir que l'arme des sanctions ne fonctionne plus du tout, qu'il y a maintenant une synergie entre les pays visés, dites puissances révisionnistes selon la doctrine officielle du Pentagone, qui inclut votre pays, la République populaire de Chine et la Fédération de Russie, comme étant les trois puissances prééminentes qu'il convient pour le Pentagone de cibler, et que effectivement les expériences et des uns et le savoir-faire des autres fait que ces trois joueurs incontournables maintenant partagent des expertises et parviennent à contourner et rendre, ce faisant, l'arme des sanctions complètement obsolète. Et donc, il ne reste plus que, dans ces conditions-là, des déclarations et bien sûr du colportage de médiatique qui, plus le temps passe, plus on s'aperçoit que ce n'est qu'une chambre d'enregistrement, une chambre d'écho qui fait état de faits qui sont complètement déconnectés de la réalité. Et j'allais presque dire que l'opinion publique en Occident a bien identifié ce phénomène, ce qui fait que, pour peu que ces moyens médiatiques soient déployés à l'attention des populations occidentales, même sur ce plan-là, malgré leur puissance de feu, plus personne, ou en tout cas de moins en moins de gens, ne font confiance aux sources dites officielles.
Merci Maître. Et en ce qui concerne ce suivisme des pays occidentaux, hein, on a déjà évoqué le sujet à travers différentes émissions. Il y a ce suivisme des pays occidentaux, à savoir si les États-Unis font ça, nous allons faire la même chose. S'ils vont mettre des sanctions, nous allons les suivre. Est-ce qu'à votre avis, ce suivisme, il y aura une fin un jour? Est-ce que les pays occidentaux décideront un jour d'avoir leur politique indépendante eux-mêmes?
Tant qu'il y aura au pouvoir Maître... d'Occident.
D'accord, on va écouter l'analyse de Luc Michel. Ensuite, je redemanderai la question à Maître Develay. Luc Michel, on vous écoute.
Tant qu'il y aura au pouvoir en Occident des régimes atlantistes qui ont été mis au pouvoir par les Américains, il n'y aura pas de rupture avec le civisme occidental. Mais il y a de plus en plus un éloignement et une colère de ce qu'on appelle les élites neutres. Les élites neutres, ce sont les diplomates, ce sont les militaires, les industriels. Eux ne veulent plus suivre les États-Unis. C'est particulièrement le cas en Allemagne, où ça se passe. Pour le reste, je ne crois pas une aventure militaire. L'Occident n'a plus les moyens des États-Unis, des aventures militaires. Pour parler comme les Chinois et les Vietnamiens dans les années 1960, les Américains sont obligés de tigre de papier. Il reste à voir les sanctions, mais les sanctions marchent de moins en moins. Il y a plus de 11 000 sanctions contre la Russie. On parle maintenant de sanctions contre la Chine et pas à l'Iran, les sanctions n'ont pas marché. Dès lors, évidemment, même cette tentation d'imposer des sanctions au monde, elle ne fonctionne plus. Il suffit de voir le cas de l'Inde. L'Inde et la Russie ont contourné les sanctions et on n'ose pas la sanctionner. Il y a la même chose des non-alliés. Il y a le G20, évidemment, qui est du côté du bloc de l'Est et qui résiste aux sanctions. Dès lors, comme je le dis, l'Occident est un tigre de papier.
Merci, Luc Michel. Alors, vous, Maître, quelle est votre analyse sur la question que je viens de poser, ce suivi, ce n'est pays occidentaux?
Alors, de toute évidence, je partage l'analyse de Luc Michel quant au fait que les élites, entre guillemets, européennes, hein, puisque bon, c'est vraiment de cela dont il s'agit, sont de toute manière repérées depuis longtemps dans leur carrière respective. Le changement ne viendra pas du haut. Ceci dit, et je partage encore une fois l'analyse de Luc Michel, c'est qu'il y a maintenant des industries et des membres des establishments européens qui, eux, informés comme ils le sont, on voit très bien que sur la durée, les choses vont forcément devenir de plus en plus compliquées dans les pays concernés, ciblés, qu'on a pu voir à l'aune de la destruction du Nord Stream 2, que l'Amérique avait maintenant décidé que l'économie européenne en tant que telle devait être sacrifiée à l'aune des intérêts américains, que cela va forcément entraîner des dislocations socio-économiques très graves dans ces pays, que pour l'instant, à l'aune d'un hiver dernier relativement doux, ça ne s'est pas encore forcément ressenti, mais on peut imaginer qu'en étant incapable de pouvoir avoir accès à des sources d'énergie bon marché qui permettent de faire marcher une économie digne de ce nom, ça va être très compliqué pour les pays occidentaux, surtout en Europe, déjà de pouvoir continuer à offrir une offre, un pacte social à leurs concitoyens. Et on peut voir déjà de plus en plus que dans la rue, ça commence maintenant à bouger. Alors, est-ce que les thématiques qui sont épousées par les manifestations sont des thématiques qui sont pertinentes? On pourrait penser que, bon... dans la plupart des cas, pas vraiment, pas encore en tout cas. Mais tout ça se coagule et je pense qu'à terme, il va y avoir forcément un point de rupture et que ce point de rupture pourrait intervenir assez rapidement, je dirais peut-être dans les 18 mois, pas plus que 2 ans, ça c'est certain. À la vitesse de la détérioration de l'économie européenne qui ne produit rien, qui n'a plus de base industrielle, qui n'exporte rien, endettée comme elle l'est, et avec un personnel politique incapable de, si je puis dire, de confronter les Américains pour que, si je puis dire, les abus cessent, ça ne peut que mal se terminer.
Merci pour vos explications. Et Luc Michel, en ce qui concerne peut-être une dernière question à vous, cette nouvelle page qui s'est ouverte dans la région avec le rapprochement entre l'Iran, l'Arabie Saoudite, la Syrie, donc c'est quand même un rapprochement très important, très significatif. Est-ce que ces rapprochements et ces reprises de relations pourraient également en fait faire échec aux politiques et aux plans qu'avaient misé en fait les États-Unis dans la région?
Bien entendu, les États-Unis et Israël sont en train de perdre la main au Proche-Orient. Et aujourd'hui, la désoccidentalisation du monde que l'on vit en Afrique, on la vit aussi au Proche-Orient, puisque le principal allié des États-Unis, qui est l'Arabie Saoudite maintenant, s'est tourné vers le bloc de l'Est. Il n'y a pas seulement les Saoudiens, il y a également les pétromonarchies, les Émirats Arabes Unis, du Qatar et même le Maroc. Donc les États-Unis ne sont plus en mesure de contrôler la politique. C'est cela qu'il faut constater. Et cela aura des conséquences évidemment mondiales. Il y a un an et demi, les États-Unis contrôlaient 100% de la planète. Aujourd'hui, ils ont derrière eux 15% de la population mondiale. 85% étant de leur aveu même. C'est le cas de l'ambassadeur Liban, de la France au Liban. 85% de la population mondiale n'est plus du côté des États-Unis.
Merci. Et vous, Maître Develay, on a près de 2 minutes devant nous. Vous, à votre avis, est-ce que cette nouvelle page, ce nouveau chapitre qui s'est ouvert dans la région pourrait changer totalement la donne dans la région, mais également avec les politiques des États-Unis?
Encore une fois, je pense que, comme le dit Luc Michel, les États-Unis n'ont plus les moyens de leurs ambitions. Il y a encore quelques vestiges idéologiques au sein de l'État fédéral qui s'accrochent à ce vestige d'influence dans la région. On a appris récemment que Riyad avait fait des commandes d'armement auprès de la Chine, que Riyad avait acheté du diesel russe pour le revendre aux Européens. Donc on peut penser que, in fine, les Européens paieront beaucoup plus que ce qu'ils n'auraient payé s'ils avaient fait directement affaire avec la Russie. Donc, pour l'instant, c'est une forme de, si je puis dire, de consolidation après les événements relativement importants et vraiment fondamentalement qui altèrent complètement la dynamique dans la région. On assiste maintenant à une consolidation, mais je pense qu'à terme, effectivement, ce n'est pas tant que le Proche-Orient aura l'ambition ou le désir d'influer sur les politiques occidentales. Ces derniers font les erreurs eux-mêmes qui les mettent dans des situations inextricables. Mais ce faisant, ce qu'on peut anticiper, c'est peut-être une ère de stabilité, et avec la stabilité vient la prospérité. Et ça, c'est très bon pour le Moyen-Orient, qui est quand même, depuis au moins une centaine d'années, fait l'objet de dislocations politiques qui empêchent le développement nécessaire.
Merci infiniment. Alors Arnaud Develay, juriste international, était avec nous par Skype. Également Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles par téléphone. Merci à vous, à toutes et à tous de nous avoir suivis jusqu'à la fin de cette émission. Vous pourriez revoir toutes les informations, également cette émission, les autres émissions, les reportages, les entretiens exclusifs sur notre site french.presstv.ir. Je vous dis au revoir et à très bientôt.
Afrique économique.
Chers auditeurs et auditrices, bonjour et merci d'être avec nous pour une nouvelle édition de l'Afrique économie. Afrique économie est une émission durant laquelle nous révisons en bref les actualités et les développements économiques durant la semaine dernière sur le continent africain. Restez avec nous.
En
Tanzanie, la première estimation de ressources minérales pour l'or de Tembo est attendue d'ici juillet 2023. La Tanzanie est l'un des plus grands producteurs d'or en Afrique de l'Est. Le deuxième producteur mondial d'or, Barrick Gold, y est très active et l'une de ses mines est adjacente au projet orifère Tembo. Une découverte importante d'or sur ce site participerait à accroître la production nationale. La première estimation de ressources minérales du projet orifère Tembo sera publiée d'ici 6 à 8 semaines. C'est l'annonce faite le 25 mai par son propriétaire canadien Tembo Gold, indiquant que les données obtenues jusque-là grâce à sa propre activité d'exploration et au forage historique sur le site sont suffisamment importantes pour justifier une modélisation et une quantification des ressources. Pour réaliser cette estimation, Tembo va s'appuyer sur trois cibles principales où de l'or à haute concentration a déjà été intercepté à plusieurs endroits, dont 22,18 grammes d'or sur 15 mètres. Notons qu'une fois l'estimation de ressources minérales publiée, Tembo Gold va poursuivre les travaux de forage pour accroître sa certitude par rapport aux ressources identifiées avant de lancer, le cas échéant, une évaluation économique préliminaire si cette première étape destinée à évaluer la viabilité économique du projet est concluante. La compagnie poursuivra avec des études de préfaisabilité et de faisabilité et demandera les permis nécessaires pour exploiter l'or. En dépit des divers obstacles, l'administration sortante au Nigeria a fait de la création de Nigeria Air l'une de ses priorités et voudrait voir la compagnie décoller avant de passer la main. Un Boeing 737 MAX estampillé Nigeria Air a atterri ce 26 mai 2023 à l'aéroport international d'Abuja, tel qu'annoncé mercredi par le ministre de l'Aviation Adi Sirika, qui indiquait qu'un plan de livraison de deux aéronefs était en cours en vue du lancement de la nouvelle compagnie. Il a par ailleurs annoncé le démarrage des opérations commerciales de Nigeria Air avant le 29 mai en dépit du litige pendant devant la justice qui bloque l'aboutissement de ce projet depuis plusieurs mois. Nigeria Air pourrait ainsi débuter sans toutes les autorisations requises, le tribunal ayant ordonné un sursis du processus de création et interdit à l'autorité de l'aviation civile du Nigeria de délivrer à la compagnie le certificat d'opérateur aérien, un document indispensable pour lancement des activités de toute compagnie aérienne. Actuellement, aucun calendrier de réservation n'a été dévoilé, et le transporteur ne dispose toujours pas de site web pour la vente en ligne des billets, l'information des voyageurs et autres. En cours depuis quelques années, le projet Nigeria Air vise à combler le vide laissé par la disparition de Nigeria Airways il y a environ 20 ans. Selon le modèle d'actionnariat retenu, Ethiopian Airlines, partenaire stratégique de la compagnie, détiendra 49% des actions contre 5% pour le gouvernement fédéral, alors que le reste des parts sera cédé à des opérateurs privés. En Botswana, Sandfire a produit le premier concentré à la mine de cuivre Motheo. Selon une étude de faisabilité publiée en août 2022, la mine de cuivre Motheo peut livrer 440 000 tonnes sur 10 ans grâce à un développement en deux étapes. Le développement de la première phase sera achevé dans quelques mois. La mine de cuivre Motheo Botswana a livré son premier concentré de cuivre. Cela annonce faite le 25 mai par son propriétaire australien Sandfire Ressources qui précise que les premières tonnes seront exportées à partir du milieu de l'année 2023. La construction de cette société environnementale est par ailleurs achevée à plus de 92% et la montée en puissance progressive de l'usine de traitement jusqu'à sa capacité de traitement initiale de 3,2 millions de tonnes devrait être complète au cours du prochain trimestre. De plus, la société a obtenu l'approbation des autorités botswanaises pour l'évaluation des impacts environnementaux et sociaux de son projet d'agrandissement de la mine à partir du gisement A4. L'approbation de l'ESIA est le résultat d'un vaste processus de consultation publique qui inclut de nombreuses parties prenantes, y compris les communautés concernées, et une autre démonstration de l'élan que Sandfire est en train de construire grâce à notre interaction positive avec les parties prenantes de la région, explique Brendan Harris, PDG de Sandfire. Cet accord est la dernière étape avant l'octroi d'un permis d'exploitation minière permettant à Sandfire d'accélérer ses efforts pour atteindre une capacité de traitement annuelle de 5,2 millions de tonnes à l'usine. Une fois ce succès enregistré, Moteo devrait être en mesure de livrer annuellement 500 000 tonnes de cuivre à partir de l'exercice financier 2025. Pour rappel, Moteo est la deuxième mine à entrer en production en moins de 2 ans au Botswana après celle de la compagnie Cupric Canyon Capital, Romeo en l'occurrence, qui a livré son premier concentré de cuivre fin juin 2021. Ces deux projets symbolisent l'émergence d'une industrie cuprifère dans le pays d'Afrique australe, dont le secteur minier est actuellement dominé par l'exploitation des diamants. Après sa levée réussie de 6,2 millions de dollars en janvier 2022, la plateforme Anka, spécialisée dans la vente en ligne de produits de l'industrie créative liée à l'Afrique, a approché la Société financière internationale pour obtenir un financement supplémentaire destiné à financer ses projets d'expansion. La plateforme ivoirienne de commerce électronique de produits d'inspiration africaine Anka, anciennement connue sous le nom d'Africrea, a sollicité la Société financière internationale en vue d'obtenir un prêt d'un montant maximum de 3,4 millions de dollars. L'institution financière internationale qui rapporte l'information dans une note publiée lundi 22 mai explique que cette ressource servira à financer les opérations et plans d'expansion d'Anka, principalement en Côte d'Ivoire. Ce projet le financement devrait être soutenu par le mécanisme de financement mixte de guichet du secteur privé de l'Association internationale de développement. Le financement sera principalement utilisé pour développer les opérations de la société en Côte d'Ivoire, fait remarquer la SFI. Anka, qui a été cofondée en 2016 par les entrepreneurs Moulay Tabouret et Kadri Diallo, a levé en janvier 2022 et sous forme de financement de pré-série A un montant de 6,2 millions de dollars pour développer son infrastructure de paiement mobile ainsi que ses produits. La plateforme qui commercialise des vêtements, accessoires de mode et d'artisanat africain avait déclaré à cette période avoir servi plus de 7000 vendeurs de 47 pays africains et des acheteurs de 170 pays répartis entre les Amériques, l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Dans une mise à jour opérationnelle publiée fin avril, les parties prenantes de la licence PEL-87 avaient annoncé le démarrage d'un programme de relevé sismique 3D devant permettre de préciser les pistes d'exploration sur le périmètre. La société canadienne Sintana Energy a publié vendredi 26 mai un nouveau développement concernant la campagne de relevé sismique 3D lancée le mois dernier sur le périmètre PEL 87 situé en Namibie dans le bassin d'Orange. D'après la compagnie, ces travaux ont été finalisés en dépassant largement les prévisions opérationnelles annoncées. Ce sont ainsi plus de 1500 km² de données sismiques supplémentaires qui ont été acquises, en plus de 6872 000 km² initialement prévus. Conformément à ce qu'elles avaient initialement communiqué, les premiers résultats de l'interprétation des données recueillies devraient être disponibles d'ici le mois d'août. Nous sommes très satisfaits du rythme et de la qualité des données de ce programme sismique sur le PEL 87, a déclaré Knowledge Cathy, membre du conseil d'administration de Sintana. La qualité de notre position unique au cœur du bassin d'Orange en Namibie continue d'être mise en évidence par le rythme de l'activité et l'intérêt pour nos blocs. Nous nous réjouissons des progrès continus et des succès de l'exploration au cours des prochains trimestres, a ajouté Robert Boss, président et directeur de Sintana.